France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Quatrième épisode aujourd'hui, Günther Anders, moraliste.
Early in 1963, I was profoundly disturbed by the mounting evidence in the Western press of the atrocious acts taking place in Vietnam. I therefore wrote to the New York Times stating, I quote, "The United States government is conducting a war of annihilation in Vietnam." This statement was not lightly made or chosen for its polemical effect. It expressed my true conviction based on evidence which I had studied with care.
Début 1963, j'ai été profondément troublé par les preuves croissantes dans la presse occidentale des atrocités commises au Vietnam. J'ai donc déclaré au New York Times, je cite, « Le gouvernement des États-Unis mène une guerre d'annihilation au Vietnam ». Cette déclaration n'a pas été faite à la légère, ni décidée à des fins polémiques. Elle exprimait ma conviction sincère, basée sur des preuves que j'avais soigneusement étudiées. C'est Bertrand Russell que nous venons d'entendre lors d'une conférence de presse sur le tribunal qui porte son nom en 1966. Tribunal qui se pencha sur les crimes commis par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Comment juger les crimes de guerre ? Comment s'articulent crimes d'agression, crimes contre l'humanité et crimes de génocide ? Nous aurions pu penser, il y a encore quelques années, que cette question appartenait à l'histoire, mais elle est malheureusement redevenue d'une actualité folle depuis la nuit du 24 février 2022, moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Günther Anders participa au tribunal Russell, mais les interrogations morales qui sont les siennes dépassent largement la guerre du Vietnam, tant les barbaries et les catastrophes du XXe siècle n'eurent de cesse de le rattraper. Alors comment fonder nos obligations morales face au mal passé et à la catastrophe à venir ? De quelle nature doivent être nos responsabilités et notre culpabilité ? Quelle place occupe la mémoire dans la morale que nous devons nous forger ? On en parle ce matin avec mes deux invités. Bonjour Ninon Granger.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en philosophie à l'université Paris 8 et vous êtes notamment l'auteur de L'urgence et l'effroi, l'état d'exception, la guerre et les temps politiques qui a paru en 2018 chez ENS Éditions. Et vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif Günther Anders et la fin des mondes qui a paru chez Classique Garnier en 2021. Et bonjour Valérie Pratt.
Bonjour à vous.
Vous êtes docteur en philosophie du droit et enseignant en classe préparatoire et vous êtes l'auteur de Nuremberg, les droits de l'homme, le cosmopolitisme pour une philosophie du droit international qui est apparu en 2018 au bord de l'eau. Et vous avez également participé à l'ouvrage collectif co-dirigé par Ninon Granger que je viens de citer. On a donc entendu cet extrait de la conférence de presse de Bertrand Russell à l'occasion du tribunal Russell auquel, comme je l'ai dit, Günther Anders a participé. Et ça me permet de vous demander pour commencer cette discussion... Comment s'articule la construction finalement de la morale chez Günther Anders, dont on ne peut peut-être pas dire qu'elle prédomine dans son œuvre, mais vous me le direz, aux circonstances historiques auxquelles il ne cesse d'être confronté. On a dit dans notre premier épisode que sa vie avait traversé le XXe siècle et qu'il était donc en permanence ramené aux catastrophes qui s'y succèdent. Il se définit lui-même comme philosophe de circonstances, Ninon Granger. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un authentique système moral chez Günther Anders?
Alors, merci. Merci de poser cette question d'emblée. Günther Anders est un philosophe de circonstances et il se revendique philosophe moraliste. D'emblée, philosophe moraliste et même moraliste tout court, à côté de écrivain engagé, qui serait sans doute son identité première. Et il se revendique moraliste. Pas du tout de manière systématique. Günther Anders ne veut pas faire de philosophie classique. Il fait une philosophie de l'urgence, l'urgence des temps. Vous avez rappelé ce qu'il a traversé dans sa vie, le XXe siècle. C'est une philosophie de l'urgence qui ne va pas s'embarrasser d'un système philosophique proprement dit, qui veut ouvrir, je le cite, une voie au cœur des problèmes moraux qui entravent la route de l'humanité aujourd'hui. Donc c'est vraiment une morale qu'il veut produire, mais une morale sans fondement, qui est adaptée à son époque, qui est celle de l'âge atomique. Mais c'est une morale qui, pour autant, n'est pas sans commandement. il appelle commandement des thèses qu'il propose concernant l'âge atomique et évidemment le combat antinucléaire.
On va y venir en effet. Valérie Pratt, je me tourne vers vous. Donc nous avons, je le redis, entendu cet archive du tribunal Russell, auquel Günther Anders a participé. En quoi consiste ce tribunal et comment est-ce que ça s'inscrit justement dans la réflexion morale de Günther Anders ? Parce qu'a priori, un tribunal, on peut se dire, c'est plutôt juridique que moral.
Oui, alors on pourrait peut-être définir ce tribunal comme étant un tribunal d'opinion et peut-être plus positivement, précisément, comme étant un tribunal moral, parce que ce n'est pas une institution juridique internationale fondée et reconnue comme telle, c'est une initiative de quelques individus, à commencer par Russell, Sartre, et puis parmi les autres personnes qui siégeaient, il y avait Simone de Beauvoir ou encore James Baldwin, et puis aussi Günther Anders, qui a été très marqué par les crimes commis au Vietnam, à tel point qu'il a écrit ensuite un ouvrage dont on parlera certainement, Visit Beautiful Vietnam, qui va paraître juste après cette période où il a siégé au tribunal et où il dénonce la manière dont l'armement et le développement militaro-industriel poussent les États-Unis dans la guerre à commettre des crimes avec des armes atomiques, bactériologiques, chimiques. Et c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est Visit Beautiful Vietnam, ABC des agressions aujourd'hui. Et c'est un abécédaire, et c'est un abécédaire moral en un sens, lui aussi.
Je vous propose qu'on écoute, pour poursuivre cette discussion, un extrait d'un texte de Günther Anders, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ? Dans lequel il revient justement sur les grandes ruptures qui ont marqué sa vie et qui l'ont conduit à cette réflexion morale.
Il est indiscutable que le 6 août 45, Hiroshima a signifié une coupure. Cette césure a certainement été la plus nette dans ma vie. Mais elle n'était pas la première, loin de là. À l'âge de 15 ans déjà, comme vous le savez, j'ai vécu l'horreur de la Première Guerre mondiale. La deuxième coupure fut l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Avant qu'elle ne commence, je savais qu'Hitler allait signifier « guerre mondiale ». Sur le plan de la subjectivité, cette coupure s'exprima par le fait que je devins un type bizarre, sombre et difficile à supporter pour ceux qui vivaient à mes côtés, notamment pour celle qui était alors ma femme. Je devins quelqu'un qui non seulement s'appliquait jour après jour à haïr continuellement et de toutes mes forces, mais aussi quelqu'un qui se faisait de cette haine un devoir. La troisième coupure, ce fut l'annonce des camps de concentration. Ce fut la révélation que l'homme, au siècle de l'industrie de masse, en était arrivé aussi maintenant à produire industriellement des cadavres par millions. Bref, ce fut à Auschwitz. La seconde et la troisième césure ont fait de moi un écrivain politiquement engagé. Quand a eu lieu la quatrième, Hiroshima, je n'ai tout d'abord pas pu, et ce, pendant des années, réagir en tant qu'écrivain. Dans un premier temps, je suis resté muet. Non parce que je n'avais pas saisi la monstruosité de l'événement, mais parce qu'au contraire, mon imagination, ma pensée, ma bouche et ma peau, tout cela refusait de travailler devant la monstruosité de l'événement.
France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
C'était une lecture par Jules Barbier d'un extrait du texte de Günther Anders, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ? Dans lequel il revient sur les différentes ruptures qui ont marqué sa vie. Ce qui frappe dans ce texte, Ninon Granger, c'est cette évocation notamment de la haine. On est habitué à ce qu'il nous parle du désespoir, et c'est d'ailleurs un peu le titre de cet ouvrage, mais là, il parle de la haine, de cette habitude qu'il prend, de cet entraînement presque qu'il prend à se forcer ou s'habituer à haïr. C'est d'ailleurs le titre aussi d'un de ses ouvrages. Comment est-ce qu'on passe de la haine à la morale ? Ça paraît complètement contre-intuitif.
En fait, ce qui se passe, c'est que Günther Anders s'applique à haïr. Il s'éduque à haïr alors qu'il n'y est pas, habitué et qu'il n'y est pas enclin. Au contraire, il a tendance, si on veut trouver des éléments de sa morale, à la fonder sur une forme d'empathie. D'empathie qui s'exerce à l'égard de toute la communauté humaine. Et c'est vraiment ça qui fait le socle de sa morale, c'est le lien qu'il y a, lien ténu, lien de cœur essentiellement, beaucoup plus que de raison, entre les différents individus. Donc c'est ça qui, ce à quoi il s'éduque. Mais en fait, là, ce qu'il met en avant, c'est toutes les images du mal, et d'un mal évident, qui se décline en Hiroshima, Première Guerre mondiale, Auschwitz, et puis il peut ajouter par mention de temps à temps le Vietnam et même l'Algérie. Donc c'est un mal évident et c'est celui contre lequel il faut agir et contre ces répétitions finalement du mal que sont ces différents événements.
Mais ce qu'il dit par ailleurs, c'est aussi que ce mal que vous venez d'évoquer sous ses différentes formes fait tomber en quelque sorte les catégories morales ou éthiques qui avaient pu être pensées auparavant. Donc comment est-ce qu'on réussit à forger à partir de ça une morale qui est unifiée ou pas, je ne sais pas, vous me direz. Valérie Pratt, vous avez travaillé donc sur le tribunal Russell et aussi sur sa comparaison justement avec Nuremberg. Comment est-ce que ça fonctionne chez Günther Anders? Est-ce qu'on peut justement penser le mal et le juger moralement, en l'occurrence, de manière unifiée, ou est-ce que, comme on l'a dit, les circonstances font qu'il va toujours falloir finalement déployer des concepts adaptés à des situations particulières?
Alors c'est vrai que Günther Anders estime qu'à partir de Hiroshima, c'est l'an zéro de la nouvelle morale. Que les théories morales qui existaient jusque-là se sont complètement effondrées. Et si j'ose le dire, elles ont été gazées et bombardées. Et donc on ne peut plus aujourd'hui, quand on amasse des ogives nucléaires, comme il le dit aussi, continuer à lire l'éthique à Nicomaque. Alors siéger au tribunal Russell, pour lui, ça a été... une des périodes les plus actives et les plus intéressantes de sa vie du point de vue de cette reconstruction de la morale. Mais comme ce tribunal n'est pas un tribunal juridique au sens propre, la comparaison avec Nuremberg n'est pas évidente, même si Sartre, qui a présidé les deux sessions en 67, fait explicitement la comparaison. Et pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de rendre une justice simplement quand on est vainqueur, mais aussi d'attaquer les puissances en utilisant un vocabulaire moral, on va dire moralo-juridique, c'est-à-dire que les crimes qui sont poursuivis devant ce tribunal sont bien des crimes codifiés en droit international.
Oui, crimes d'agression,
crimes d'agression, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Mais Anders lui-même fait une utilisation de ces catégories, notamment dans ses écrits et dans son livre sur le Vietnam, qui est une utilisation qui n'est pas juridique. Il en fait une utilisation où il est dans l'exagération, où il est dans la provocation, mais aussi pour susciter notre indignation, notre honte, notre étonnement, notre effroi. Et la manière dont il fait usage de la catégorie de génocide, pour laquelle d'ailleurs il emploie plusieurs termes en allemand qui ne sont pas nécessairement les termes codifiés par le droit. En droit, c'est Völkermord. Lui, il parle des fois de génocide, ce qui est quand même assez rare en allemand. Et puis, il ne se contente pas d'écrire les choses juridiquement, mais de susciter notre effroi et notre indignation. Et à partir de là, il nous donne les éléments pour prendre conscience des problèmes moraux. Et en un sens, Anders est une sorte de conscience morale vivante et active, au sens du terme allemand de Gewissen, c'est-à-dire ce que la conscience a en propre pour pouvoir être morale et redevenir morale.
Et ça me paraît très important, ce que vous venez de dire sur l'exagération. On l'a rapidement évoqué hier avec Bruno Villalba. Et il en parle également, Günther Anders, dans « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Pardon. Il lie intimement justement le style qu'il adopte à cette perspective morale. Dans certaines pages qui précèdent l'extrait que nous avons lu, il montre bien comment justement il se met à déployer divers styles que nous avons déjà évoqués, la fable, les conversations imaginaires, les correspondances, les interviews et même la satire à la manière de Swift, précisément parce qu'il importe que la morale soit dite dans une langue qui suscite l'action. C'est pour cela que c'est lié particulièrement au style, Ninon Granger ?
Le style moral d'Anders, bon, le style d'Anders, il est d'une manière générale très très particulier, mais c'est un style de l'adresse. C'est-à-dire que Günther Anders, il s'adresse toujours à quelqu'un, que ce quelqu'un soit imaginaire, qu'il soit fictif ou qu'il soit tout à fait réel. Et évidemment, c'est nous qui sommes les destinataires de sa parole. Mais il a besoin véritablement d'interlocuteurs. C'est pour ça que il met en scène... Par exemple, son épouse, lorsqu'il raconte son retour à Breslau, exactement. Il s'adresse à Klaus Eichmann, le fils de Adolf Eichmann. Il s'adresse à Claude Heatherly. le pilote qui a donné l'accord pour le bombardement d'Hiroshima en fonction de la météo. Donc il s'adresse toujours. Alors on a beaucoup reproché à Günther Anders d'être un prophète de malheur, d'être un Cassandre qui annonçait l'apocalypse. Günther Anders, il dit je n'annonce rien puisqu'elle est déjà là. Nous sommes déjà dans l'ère atomique. Moi, je dirais plutôt que Anders se voit plutôt comme un messager ou comme un héros d'une forme de tragédie moderne, c'est-à-dire qu'il raconte. Il raconte ce qui se passe. Et il le raconte à des interlocuteurs. Et il me semble que ça, c'est vraiment une dimension de son style, de sa philosophie morale, que de s'adresser à un lecteur, possiblement un semblable, bien entendu, dans un dialogue. Et c'est ça qui constitue véritablement la structure de l'action, hein, puisque la morale, elle doit déboucher quand même sur une action.
Vous nous avez dit au début de cet entretien, Ninon Granger, que c'était une morale sans fondement. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça signifie ?
C'est une morale de l'urgence. Il le dit, lorsque lorsqu'il y a le feu, on n'a pas le droit de s'interroger sur la légitimité des pompiers. De même, quand quelqu'un se noie et que on va le sauver, on ne s'interroge pas sur les fondements de notre action. Or, nous sommes dans notre monde qui est livré à l'ère atomique, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit d'ailleurs industrielle. Il a des thèses sur Tchernobyl. Pour lui, c'est la même chose. Hein. C'est l'usage du nucléaire et nous sommes destinés à en mourir en tant qu'espèce humaine. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas besoin, finalement, de fondement pour cette morale.
Mais quand, Valérie Pratt, quand il juge ou quand on juge un crime contre l'humanité, par exemple, ou un crime d'agression, qui est une catégorie particulièrement importante dont découlent les autres crimes, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je faisais le lien au début de cette émission avec la situation en Ukraine, il faut bien s'appuyer sur un principe, il faut bien se fonder sur quelque chose à ce moment-là. Comment ça fonctionne alors ?
Alors on pourrait peut-être dire paradoxalement que c'est une morale certes sans fondement, mais sans doute pas sans principe. C'est-à-dire qu'il s'agit de repenser ces principes et de les reproposer. Alors là, si vous faites le lien avec l'Ukraine, c'est plus délicat parce que, ce qui est un lien très juste, mais c'est plus délicat au sens où on ne va pas recourir à quelque chose comme le tribunal Russell, puisque les instances internationales sont peu ou prou, à certains niveaux, engagées dans des poursuites. On n'est pas dans un questionnement sur un tribunal qui serait simplement un tribunal moral ou d'opinion. Et si Anders était là, je ne peux pas parler à sa place, mais je crois qu'il y a deux niveaux où on pourrait reprendre et prolonger sa voix. C'est d'une part sur l'âge et l'ère atomique qui est doublé de l'ère climatique. Et j'ai envie de dire que la crise climatique dans laquelle on est, c'est une autre forme de bombe dont on est responsable. Et là, il nous enseigne la peur. Donc il y a la honte, il y a l'effroi, il y a la haine, mais il y a aussi la peur. Et il s'agit d'apprendre à avoir peur, et non pas à avoir peur au sens de l'angoisse comme structure constitutive des êtres que nous sommes, mais une peur qui nous rendrait moraux et qui nous ferait réagir. Et puis concernant la question de la guerre, du crime contre l'humanité et de l'agression, il faut qu'on puisse fédérer des citoyens, parce que Anders est aussi une figure de citoyen du monde qui puisse porter ce type de combat devant les instances judiciaires qui existent et qui peuvent fonctionner. À l'époque du tribunal Russell, on était en pleine guerre froide et les instances internationales étaient complètement bloquées. C'est-à-dire que les projets qu'on a eus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'instituer une justice internationale ont été gelés. Et c'est seulement dans les années 90 que c'est reparti. Alors peut-être que le fait d'être au pied du mur sur le plan climatique et sur le plan de la paix, ça va nous forcer à inventer de nouvelles institutions qui seront aussi des institutions morales.
Ninon Granger ?
Oui, cette morale, c'est une morale du scandale et de l'indignation que ressent Anders, mais c'est vraiment une morale qui est tournée vers l'action. Valérie Pratt disait qu'il fallait que nous apprenions à avoir peur, et dans l'urgence climatique qui est la nôtre, je pense que c'est très important. Et ça, Günther Anders l'a vraiment réfléchi dans la mesure où il s'intéresse à notre indifférence morale, notre absence de réaction, qui est liée liée à notre absence de représentation. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'imagination assez large pour nous représenter les conséquences de nos actes et les événements finalement énormes. De même pour Auschwitz, nous n'avons pas la capacité à nous représenter 6 millions réellement de morts, de cadavres. Nous n'avons pas la capacité nous représenter des événements énormes. C'est ce qu'il appelle la supraliminarité. Donc il faut absolument s'éduquer aussi à cette imagination, à élargir notre imagination. Il le dit, hein, tu dois te faire des images. Mmh. C'est un renversement des évangiles. Donc ça participe de cet apprentissage, de cette éducation qu'il veut mettre en place justement dans sa morale.
Alors je voudrais justement qu'on vienne à cette dimension des émotions. Vous avez évoqué la peur, on peut aussi parler du désespoir, de la honte. J'aimerais qu'on parle maintenant de la manière dont tout ça s'articule justement pour alimenter la proposition morale de Anders. Mais pour cela, écoutons-le.
Si personne ne comprend ce qui le menace réellement, alors chacun ne vit qu'au jour le jour et ne se préoccupe pas du fait que l'effondrement est suspendu au-dessus du toit de sa maison sous la forme d'une possible bombe atomique. Je suis tout à fait favorable à quelque chose que j'appelle l'obligation morale d'être schizophrène. C'est-à-dire que même si je considère que la situation est désespérée, je n'ai pas le droit d'agir comme si j'étais désespéré, mais je dois agir comme s'il y avait encore une issue de secours. Comme s'il y avait encore une planche de sel.
Verzweifelt ansehe, habe ich nicht das Recht, so zu handeln, als wäre ich verzweifelt, sondern habe so zu handeln, als gäbe es noch einen way out, als gäbe es noch eine Rettung.
C'était une archive d'une interview de Günther Anders à la radio autrichienne qui nous a été transmise par Reich Badescu, qui était notre invité mardi. On entend ici différentes dimensions justement de toute cette philosophie morale de Günther Anders, à la fois ce qu'il appelle là sa schizophrénie entre espoir et désespoir. Il nous dit il y a une obligation morale d'être schizophrène. Comment est-ce que vous comprenez cette proposition, Valérie Pratt ?
Difficile question, et elle évoque pour moi le fait que nous sommes dans une schizophrénie dans nos comportements, et dans nos façons de vivre, et dans nos contradictions permanentes, avec la conscience qu'on a que ce que nous faisons en consommant en permanence beaucoup trop d'énergie, en émettant sans cesse beaucoup trop de carbone par exemple, que nous contribuons à la perte que nous sommes en train de dénoncer. C'est-à-dire que cette schizophrénie, en fait, on l'incarne. Et elle va nous forcer à trouver des question qui renouvelle la démarche philosophique en morale. Il dit lui-même, je suis un philosophe d'un autre type et j'ai été confronté à la réalité même et c'est ça qui nous force à proposer des questionnements nouveaux.
Oui, ce qui est assez saisissant en fait, c'est quand même qu'il ne parle pas à ma connaissance de la catastrophe écologique alors que c'est tellement adapté en fait à la situation qui est la nôtre. Enfin, je veux dire, l'actualité de sa proposition morale est particulièrement prégnante face à la catastrophe écologique à venir, Ninon Granger.
Il me semble qu'il en parle un peu dans les 10 thèses sur Tchernobyl. Mais c'est vrai qu'il a toujours tendance à insister sur, alors on peut dire schizophrénie, mais c'est ce qu'il appelle aussi le décalage. C'est-à-dire le décalage entre ce que nous représentons, ce que nous faisons, et finalement qui produit clairement du monstrueux. Mmh. C'est-à-dire que notre monde, qui est un monde machinique, il dit parfois techno-totalitaire, c'est un monde monstrueux. Mais tout en étant désespéré, il prend en considération cela et aussi ces différentes dimensions de nous-mêmes. C'est-à-dire que Günther Anders, et c'est ce qu'il fait aussi dans ses journaux de l'exil et du retour et dans Visite dans l'Hadès, c'est-à-dire qu'il essaye de rendre coprésents les différents moi. Et c'est pas du tout une interrogation, un retour autobiographique auquel il procède. C'est la prise en considération des différents moi et qui sont évidemment en contradiction les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on peut très bien savoir que nous sommes dans une ère de la catastrophe, tout en ne faisant pas ce qu'il faut pour y remédier.
Nous avons parlé de la peur, du désespoir. Il y a un autre sentiment qui est très important, c'est la honte. Alors, on a évoqué mardi la honte prométhéenne, mais c'est une autre honte dont il s'agit, qui alimente aussi la réflexion morale, c'est-à-dire la honte face à ce dont les hommes se sont montrés capables. Est-ce que c'est une catégorie qui est plus importante que la culpabilité pour penser la morale chez Anders, Ninon Granger ?
Il parle vraiment de honte prométhéenne par rapport au monde des machines, par rapport aux machines, par rapport aux catastrophes, par rapport à la Première Guerre mondiale, par rapport à Auschwitz, par rapport à Hiroshima, tout en tenant compte finalement des intentions et des intentions politiques qui sont à l'œuvre et qui sont tout à fait détestables, selon lui, c'est pas pour autant une honte que le genre humain devrait éprouver de manière collective. Il a des mots très très durs concernant l'idée d'une culpabilité collective. Alors aussi parce qu'il considère que ça dédouane les véritables responsables de manière individuelle. Mais ce qui lui importe, c'est finalement de lutter contre cette indifférence morale qui est de fait une forme de culpabilité.
Et cette culpabilité, est-ce que c'est ça qu'il va chercher, Valérie Pratt, quand il s'adresse au fils d'Eichmann, en fait, parce que la différence entre le fils d'Eichmann et Heatherly, c'est que justement Heatherly porte cette culpabilité et finalement, alors que personne ne l'accuse, produit en quelque sorte les actes qui le rendent coupable aux yeux de la société. Est-ce que ça reste une catégorie très importante et dans sa discussion notamment avec le fils d'Eichmann ?
Alors, juste pour revenir sur Heatherly, Heatherly, ça va jusqu'à le transformer en fou. C'est-à-dire que les institutions, l'État américain va fabriquer quelqu'un qui est considéré comme à mettre dans un asile pour qu'on fasse taire cette conscience morale. Donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup de douleur, mais ça produit une vérité morale. Alors que du côté de Klaus Eichmann, c'est l'inverse, puisque Eichmann, le fils d'Eichmann ne lui répond pas, n'assume pas du tout la culpabilité de son père et la responsabilité qu'il a en tant qu'Allemand, si on pense à ce qu'a pu dire Karl Jaspers sur la responsabilité métaphysique du peuple, qui n'est pas une responsabilité collective en tant que telle, qui dédouanerait les coupables, puisque eux doivent être jugés, mais il convient quand même que nous ayons conscience de ce que nous avons fait dans le passé, et puis en engageant cette discussion qui n'en sera pas une avec Eichmann, il permet en tout cas à ceux qui lisent les lettres d'accéder à cette conscience et de pouvoir réfléchir à quelle est ma part de responsabilité, quelle est ma part d'engagement face à ce type de problème.
Vous venez d'évoquer le passé. J'ai une toute dernière question très rapidement, Ninon Granger. C'est la place que joue la mémoire dans la construction morale.
Ça, on peut faire tout à fait le lien avec Heatherly, parce que Heatherly, interné en hôpital psychiatrique, alors qu'il est celui qui a le plus de conscience morale et de justement, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il est interné, dit Anders, parce qu'il a résisté à l'ordre d'oublier ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que quand on bombarde, eh bien, nous ne sommes pas censés savoir ce que nous sommes en train de faire, et c'est évidemment ce renoncement à la conscience que combat fortement Günther Anders.
Merci beaucoup à vous deux, Ninon Granger et Valérie Pratt. Toutes les références de vos écrits sont disponibles sur la page de notre émission. Merci à Daphné Leblon à la réalisation, June Barbier à la préparation et Noé Chaban à la technique. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site franceculture.fr et dans l'application Radio France. Demain, pour le dernier épisode de cette série consacrée à Günther Anders, nous nous demanderons dans quel monde nous vivons et nous pencherons sur la philosophie de la culture de Günther Anders avec mon invité Perrine Wilhelm. À demain.